aberrant. Donc, faites attention à cette histoire d'aide, c'est ça aide personne. La question, elle est plutôt... Il y a cette histoire d'écriture qui est très difficile, parce qu'il faut passer des systèmes graphiques à l'éducation, l'enseignement, la pédagogie, la sociologie de l'écriture. Alors, vous avez ensuite un truc qui a eu du succès dans les années 60, la degré zéro de l'écriture. Qu'est-ce que c'était pour Barthes? Ben, c'est l'écriture de Proust, l'écriture de Mallarmé. On appelle aussi l'écriture. Qu'est-ce qu'on appelle l'écriture? L'écriture, c'est le style, à ce moment-là. C'est la façon d'écrire. On s'éloigne du signal.
Ou l'absence de style.
Ou l'absence de style aussi. Bon. Mais le degré zéro de l'écriture, c'est l'écriture au sens où c'est une façon d'écrire qui est déjà beaucoup plus incorporelle, beaucoup plus intéressante. Et justement, là, la question de la transmission se pose. Est-ce que ça fait mot d'esprit? Est-ce que ça a un effet sur le sujet? Non pas pour s'inscrire, c'est déjà suffisamment inscrit sur le papier avec l'encre. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'on en parle? Voilà. Quand il se passe quelque chose, quand il y a un acte, quand il y a un événement, on en parle, ça circule. Bon, sauf dans le lacanisme, parce que Lacan a instauré un transfert qui est la loi du silence. Alors, de toute façon, tous ceux, ils sont devenus en béton armé, là, les psychotiques de Lacan. Ils sont maintenant complètement... vous pouvez dire n'importe quoi, parce que Lacan, il a utilisé ça, il leur a appris à écouter n'importe quoi pour pouvoir en dire beaucoup. Alors eux, ils sont maintenant tous habitués à ce qu'on peut dire n'importe quoi, ça fait rien du tout. Ça fait rien. Alors, vous savez, c'est, je vous dis, c'est pire que moi, j'étais sidéré. Le jour où je suis allé à la faculté de Strasbourg en théologie, quand j'étais invité par... Sublon et comment il s'appelle, Saint-Arnaud, là, qui m'ont invité là, le Canadien, j'étais surpris de voir des gens qui connaissaient leurs textes et qui faisaient, comme les psychanalystes, ils connaissaient bien leurs textes. Et puis, quand même, ils discutaient de ce qui se passait, les théologiens. Tandis que les psys, alors là, vous pouvez dire n'importe quoi, tout le monde s'en fout. Et moi, je m'en plains pas, ça, je m'en sers aussi, vous voyez. Ça fait qu'il y a un peu de calme dans la pièce. Parce que ce que je raconte, c'est quand même des choses qu'on ne doit pas dire. Hein, alors, j'arrive quand même à dire plus de choses que je pourrais en dire dans un autre contexte discursif.
C'est pas qu'on ne doit pas les dire, mais c'est qu'on se donne rarement l'occasion de les dire.
Non, non, on ne peut pas les dire. Allons, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Que le sexe, ne vous laissez pas aller à dire que le sexe n'est pas naturel. Mais ne vous laissez pas non plus aller à dire que le sexe est naturel. C'est des choses qu'on ne peut pas aller raconter. Que le trauma, que le petit enfant, il apprend la lecture,
ça,
comment?
Quand on me raconte comme ça, comme une assertion pour faire
oui,
un point.
Mais vous n'étiez pas là, vous êtes arrivé en retard, alors vous avez tort. Okay. Regardez, j'ai écrit au tableau. Bon. Alors, le problème, il est surtout...
En quelle façon de me
boucher? Oui, voilà. Oui. Bon, le point, il est que... Le
c'est
point,
totalitaire.
Voilà, absolument, c'est pas totalitaire, c'est ça le transfert. C'est ça que Lacan, il a fait. Il a fait un discours tellement érudit que tous les pauvres types, ils voulaient parler avec Lacan et ils voulaient mesurer, comme faire les coques, là, pour mesurer l'érudition. Mais Lacan, il est doublé, il était trois fois en avance comme la tortue devant Achille. Et donc, ils étaient tous très énervés, mais ils se sont tous tus, de plus en plus. Attendez, mais comment est-ce qu'ils essayent de sortir de ce transfert? Il y en a qui essayent de sortir par l'érudition. Moi, j'en connais en Argentine encore, parce qu'ils sont un peu plus loin de Paris, alors ils essayent d'être érudits. En France, c'est même... On a abandonné l'érudition. C'est très rare qu'on rencontre quelqu'un qui va essayer de sortir du transfert, en espérant sortir du transfert, en pouvant dire à Lacan son fait, à propos de Aristote, de Platon.
Mais voulant sortir du transfert, ils sont dans le transfert.
Oui, non, mais attendez, laissez-moi continuer. Vous allez voir que la question, les autres manières de sortir du transfert, c'est vendre la psychanalyse au pouvoir public pour faire de la psychothérapie. Bon, et que ce soit réglementé. Ce qu'on n'a pas osé faire comme... organisation, règlement, ou je ne sais même pas s'il s'agit de règlement, mais dans les écoles ou dans les groupements, ce qu'on n'arrive pas à faire, ce qui serait de poser la question institutionnelle sérieusement, eh bien, on espère que l'État va le résoudre par une réglementation violente et administrative. Bon, ça, c'est la thèse de Melman, de Miller et de tous les autres. Ils rêvent de législation. Ce sont des législateurs. C'est Bonaparte. Et on a un petit caporal, c'est très bien maintenant, gaulliste. Parfait. Bon. De Gaulle, il doit se retourner dans sa tombe. Hein. Bon, Et moi, je suis pas spécialement gaulliste, hein, ça me fait marrer, moi, le Perron français, bon. Mais quand même, vous voyez qu'il y a une autre façon de sortir du transfert, ce serait de l'analyser, ce serait de le lire, ce serait de faire pas seulement de l'acting out, c'est-à-dire du transfert sans analyse, mais de faire vraiment un travail d'analysant. Moi, c'est ce que je propose. Apprendre à lire, se rendre compte qu'on ne sait pas lire, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Et ce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'écrire. Mechnik le dit aussi. Mechnik, il vient de mourir là, il y a 2 mois. Mais il dit des choses sensées. Il lit pas Lacan parce qu'il dit Lacan, c'est le signe, c'est Saussure, c'est ruineux. Malheureusement, il n'a pas vu que Lacan faisait une opération sur le signe. Hein? Et que finalement, Lacan, il corrige Saussure juste avec un mot. Il dit l'objet de la linguistique, c'est pas la langue en deux mots, c'est la langue en un seul mot. C'est génial, c'est comme toujours Lacan, vous voyez. C'est comme à l'autre bout des choses qu'on ne peut pas dire, que comment parler de la fonction phallique en tant que parole, en tant que vérité. En tant que, justement, ça fascine Kelloy, cette posture de l'animal, ces aboiements des animaux, ces parades sexuelles. La parole est toujours liée à la parade sexuelle, c'est la fonction phallique. C'est comme ça que l'enfant qui voit que les parents sont très maladroits avec ça, c'est comme ça que l'enfant est déçu, rentre dans le langage par une déception, mais qui fait qu'il va s'apercevoir qu'il y a une dimension de ce qui se lit, qu'il devient lecteur, il y a quelque chose de lisible. On ne lit pas parce qu'il y a de l'écriture, parce qu'il y a des choses écrites. On écrit parce qu'il y a du lisible. Et le corps se met à écrire à tout berzingue, au point même que, vous voyez, c'est très difficile d'analyser un rêve, mais c'est un texte. Bon, et c'est nous ce qui nous intéresse dans le freudisme, c'est ça. C'est est-ce qu'il y a quelque chose à lire ou pas? Regardez, Freud, il le dit pour à la fin de la Traumdeutung, Lacan l'a commenté ce texte dans Les noms du père, sur la télépathie. Freud dit la télépathie, mais peut-être que ça existe la télépathie. Vous voyez les épiphanies de Jung et de Joyce. Il dit la télépathie, ça existe peut-être. Freud, mais moi ça ne m'intéresse pas. S'il n'y a pas un désir qui permet de lire, parce que pour Freud, c'est la question du désir qui est le fil rouge qui permet de lire. Qu'est-ce que c'est que lire? Bon. Et donc moi je modifie la formule de Heidegger qui dit c'est pas parce que nous avons des oreilles que nous entendons, c'est parce que nous entendons que nous avons des oreilles. Qu'est-ce que c'est que entendre? Qu'est-ce que c'est que lire? Ben, je le modifie, ce n'est pas une affaire d'oreille et d'entendre, c'est une affaire d'écriture et de lecture. Le sujet lit. Bon. Et du fait de lire, il va se mettre à parler différemment et à écrire. Et la posture sexuelle, elle va être modifiée, subvertie. Bon. Et ça nous conduit jusqu'à ses dessins. Alors, Kelloy, qu'est-ce qu'il découvre d'autre dans les jeux? Il découvre qu'il y a un autre type de jeu. Il y a donc dans sa classification, il y a les jeux de compétition, les jeux de hasard et les jeux de simulacre. Le simulacre, vous voyez comme le jeu. Regardez, on dit que l'acteur au théâtre joue. Il faut chercher à explorer le paradigme du mot jeu. Tout ce qui s'appelle jeu doit rentrer dans une théorie des jeux et des hommes, n'est-ce pas? Eh bien, il a le génie de dire qu'Eloi, malgré son risque de jungisme et de glisser dans le vitalisme à la Bergson ou à la Deleuze, lui, il appelle ça le percept. Il croit inventer un truc. Parce qu'il n'a pas lu Lacan. Chez Lacan, ça s'appelle Treuner. Ça traduit un mot de Freud qui s'appelle Enzigersum. Le trait distinctif, lisible sur l'autre, que le sujet va prendre pour s'identifier. Et s'identifier, c'est un geste d'écriture. On réécrit. On écrit quelque chose à partir avec un élément qu'on a prélevé dans l'autre. Au lieu de prendre les éléments seulement dans son corps, dans le narcissisme, ou avec les parents, en gros, on en arrive ensuite à une écriture plus fine. On prend des traits distinctifs, des traits unaires, des Enzigersum. Il faut découper un petit morceau. Je vous dis, c'est le trait de la caricature. Vous voyez, c'est la moustache d'Hitler que Charlie Chaplin a réussi à utiliser comme trait unaire. Vous avez, il suffit que la moustache de Charlot, n'est-ce pas, soit à peine décalé par, l'entourage, le contexte, pof, vous reconnaissez le dictateur. C'est Charlie Chaplin, c'est génial. Comme génie de l'écriture, justement de la lecture. Vous voyez. Bon, le cinéma muet, ça, peut-être que ça a aidé pas mal aussi à ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Kelly? Il dit, il manque quelque chose. Compétition, hasard, simulacre. Ça, les mathématiciens, ils ne s'intéressent pas aux simulacres. C'est pour ça qu'un des derniers chapitres de Kegois, ça s'appelle « De la pédagogie aux mathématiques ». Parce qu'il essaye de couvrir cet éventail des jeux, dans lequel il y a les jeux de hasard, les jeux de compétition, où on peut chiffrer, on croit que c'est ça, faire des mathématiques. Justement, ils sont un peu en retard, parce que moi, je pense que même dans le simulacre, vous voyez, on peut rentrer dans une écriture et une mathématique où il est question de considérer aussi le simulacre. Le jeu de l'acteur... C'est ce qui nous occupe dans la psychanalyse. C'est quand même l'analysant, c'est quelqu'un qui vient avec sa pièce de théâtre sous le bras. Il a son texte comme ça sous le bras. Il vient et puis il veut le faire interpréter par l'analyste. L'analyste est l'acteur. Hein. Vous voyez, c'est complètement le contraire. Comme quoi, on pense vraiment à l'envers de l'acteur studio. L'acteur studio, vous voyez, c'est Marlon Brando à qui Kazan a voulu faire croire que pour être un grand acteur, il fallait se regarder à l'intérieur comme, vous voyez, Apollon. C'est pas Dioniso, c'est Apollon qui a les yeux qui se retournent du Nietzsche, qui regarde l'intérieur de son corps. Bon, donc Marlon Brando, il a été mis à la sauce néo-freudienne, qui est une catastrophe. L'acteur qui serait le type, qui serait l'analysant, et puis ce serait le metteur en scène qui serait l'analyste, voyez-vous, qui va diriger l'acteur. Parce qu'il y a ce jeu de mots sur direction de la cure. Ça existe, la direction de la cure. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'acteur au théâtre, c'est l'analyste. Il est dans la position de l'analyste. Il doit interpréter plus ou moins bien. Et au théâtre, regardez, vous pouvez comme ça expliquer à quelqu'un ce que c'est que l'acting out. Qu'est-ce que c'est un acting out? C'est quand vous avez l'analysant, il est l'auteur de la pièce ou le metteur en scène. Hein? Il veut que ça soit joué d'une certaine façon. Puis l'acteur joue pas bien. Qu'est-ce qu'il fait l'analysant? Il saute sur la scène. Il balance l'acteur dans la fosse d'orchestre, c'est-à-dire l'analyste, il le jette à la poubelle, et il va manger des cervelles fraîches à sa place. Il lui dit, t'es mauvais comme analyste, t'es mauvais comme interprète, t'es mauvais comme acteur. Donc, tout l'art de l'analyse, c'est d'arriver à décevoir, à ne pas jouer la pièce sans pousser excessivement à l'acting out. Bien que Lacan, lui, il n'a pas hésité... Il les a tous poussés dans l'acting out, transfert sans analyse. Bon, c'est-à-dire qu'il le jouait à la fois bien et mal. Hein? C'est-à-dire qu'il faisait le couillon, il faisait le pitre, comme l'a dit Verheyen. Comment il s'appelait Il y a un type qui a écrit un roman qui s'appelle Le Pitre, qui parle de Lacan, de son analyse avec Lacan. Il faisait le pitre pour ceux qui voulaient qu'il soit ignorant et qui étaient gênés. Et puis en même temps, il foutait un gros paquet d'érudition pour faire taire tout le monde. Bon, transfert sans analyse. Bon. Alors, Kelly, il dit il manque quelque chose, à part le simulacre. Et il trouve. Et il dit il y a une quatrième sorte de jeu pur, cette caractéristique va se mélanger avec les autres, hein, pour faire des jeux de toutes sortes, d'une grande diversité. C'est le vertige. Et ça, c'est assez joli, parce que regardez, si vous y réfléchissez après coup, grâce à Kelly, c'est comme toujours, hein, c'est comme si vous réfléchissez avec Freud et avec Lacan, vous allez devenir intelligent. Au lieu de vouloir les contredire, si vous voulez contredire Kelly aussi, vous n'en profiterez pas, parce que regardez comme c'est évident. Qu'est-ce que c'est que la foire du trône? Si la foire du trône avec les grands manèges, c'est pas le vertige, c'est des jeux qu'on joue dans les foires, hein. Et c'est vrai qu'il y a bien. Regardez la balançoire pour les enfants, c'est pas simplement du simulacre, c'est pas de la compétition, c'est pas du hasard, c'est le vertige. Bon. Et puis il trouve même un exemple ethnologique qui est assez beau, c'est le valador mexicain. C'est ces gens qui s'attachent en haut d'un mât. Ils s'attachent par les pieds à une corde qui est enroulée autour du mât. Ils sont sur une pièce qui tourne, un morceau de bois qui ensuite va devenir en métal avec une époque plus récente. Ils sont quatre. Ils se penchent en arrière en tournant. Et plus ils accélèrent le mouvement, Et puis ils se détachent du. Ils sortent leurs pieds, leurs jambes, leurs pieds de l'instrument qui tourne, hein, sur lequel ils étaient assis, et ils s'écartent avec la corde qui se déroule le long du mât. Et vous voyez que c'est vraiment le vertige, parce que c'est très casse-gueule. Si l'appareil se coince, c'est comme les avions, bing. Il se casse la gueule, mais il se tue. Bon, ça c'est. Puis alors, tout le monde connaît les plongeurs d'Acapulco ou. Le Mexique, c'est vraiment la civilisation mexicaine, c'est le vertige. Hein. Bon. Donc, il y a cela. Donc voilà. Mais alors, le vertige, il dit par exemple, il va jusqu'à la drogue, jusqu'à l'alcool. Tout ça. Bon, c'est très intéressant, c'est pas faux tout ça. Bon. Et donc là, il pourrait arriver jusqu'à sexe. Ben non. Il approche, il y a quelque chose d'érotique, il y a quelque chose dans le vertige. Il y a quelque chose de l'érotisme, mais il n'y a pas. Bon, voilà. Le problème, c'est qu'il est confronté à cette difficulté que nous avons tous, qui fait qu'on préfère détruire la psychanalyse que de se donner la peine pénible d'avancer lentement, de penser, mais d'avancer quand même, au lieu de reculer et de tout casser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous laisser aller à dire que le sexe n'est pas naturel. Il y a quelque chose comme ça qui va falloir faire coupure. Il n'y a que la logique qui vous permettra de couper, de vous positionner d'une manière effectivement freudienne. Il n'y a que ce genre de formule. Vous voyez, comme la femme n'existe pas, il n'y a pas de rapport sexuel. C'est négation que Lacan invente. C'est ça le rasoir d'Occam, le rasoir de Lacan. Hein? Ça vous permet discursivement de tenir un discours qui n'est pas ni autorisé, ni supportable par la logique aristotélicienne et kantienne qui est dominante. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde néo-kantien. Pourquoi on oublie ses rêves? Réfléchissez bien à ça, parce que, vous voyez, ça, hein, qu'est-ce que ça devient si j'avance un petit peu trop dans le discours? Ça, je vais le traduire en logique classique. En logique classique, ça devient ceci. La négation modifiée, elle devient une négation classique, vous voyez. À ce moment-là, ça, c'est quoi? C'est N et non N. C'est faux. Bon. Et puis, il y a une autre façon de trivialiser ça. C'est la négation, vous la rendez fausse tout de suite. Donc, vous mettez à la place de non, vous mettez faux et non N. Hein? Ça, c'est une autre façon de trivialiser. Que ça, justement, vous ne trouvez pas chez Aristote. Et le faux qui est non faux, c'est vrai. Donc c'est vrai et non haine. Et vous apercevez que cette phrase, c'est une négation, parce qu'elle se transforme en quelque chose qui est faux. Ça, c'est faux. C'est pour ça que j'ai mis une négation devant. Ou bien c'est une négation, parce que vrai et non haine, c'est non haine lui-même. Vous voyez? Donc cette négation-là, c'est ou une négation ou ce qu'on appelle une contradiction. Bon. Et ben, ce type de trivialisation, c'est ce qui se passe quand vous avez rêvé la nuit ou quand vous avez écouté mon discours ou vous avez lu un petit peu de la psychanalyse, mais de la bonne, hein, je parle de celle de Freud, de celle de Lacan. Quand vous avez passé un moment là-dedans, vous voyez, il y a un jeune gars de Lille qui m'a fait ce compliment merveilleux pour moi. Un type qui m'écoute depuis très longtemps, quand il m'invite à Lille, mon ami Amine m'invite pour leur parler. Moi, je me demande toujours, bon, je trouve qu'ils sont vachement gentils avec moi de m'inviter. Bon, parce que je sais bien que je leur parle, ils trouvent ça vachement bien. Alors le jeune gars, il est venu me voir, il m'a dit, ah, c'est formidable quand même ce que vous racontez, hein, c'est extraordinaire. Tout ce que vous dites quand vous parlez, ça me paraît vachement bien. Tout ça, ça me donne à réfléchir et tout ça. Et puis quand ensuite je veux en parler à quelqu'un, il y a un ami qui me demande mais qu'est-ce qu'il a raconté, je suis incapable de le répéter. Vous voyez pourquoi? Parce que c'est une logique, c'est un discours qui a une logique qui est ou bien c'est complètement con ce que je raconte, c'est-à-dire c'est faux. Hein, ou bien, vous voyez, c'est irréfutable, au sens que c'est un type de négation classique. Bon. Donc, vous avez là la raison qui fait que quand vous vous réveillez, votre corps, il a écrit là, dans des modalités comme ça, C'est pas de la logique modale. L'inconscient s'exprime pas par des propositions. Donc. Mais Lacan, il dit, dans l'étourdi, il dit, c'est pas une raison, parce que l'inconscient ne se manifeste pas, ne se formule pas en propositions, comme les propositions de la logique propositionnelle. Ce n'est pas une raison pour ne pas en faire la logique au sens de la modale. Bon, c'est des modalités. Mais je crois que dire modalité, c'est... Moi, je préfère dire c'est une modification. Vous voyez, je garde le mode, mais pour dire modification. Bon, c'est modifié. C'est légèrement modifié. C'est une feuille transparente nous sépare de la réalité. Et c'est cette coupure-là qu'il faut réussir à faire passer entre le freudisme et puis tout ce qui n'est pas le freudisme. Donc, vous voyez, c'est du boulot. Vous avez toutes les chances de faire de tomber, de glisser. Si vous ne vous donnez pas une bonne rampe, moi je pense que l'écriture, les dessins, c'est une bonne rampe, c'est une corde qu'on peut tenir. On peut glisser, mais on ne va pas glisser trop, on va se rattraper. On pourra se corriger sans se casser trop la gueule. Bon, sinon on tombe dans le jungisme. Alors voilà, Kelloy, je ne sais pas s'il est tombé dedans ou pas. Il y a des moments où les pierres paysages, ça ne me convainc pas du tout. Hein. Les fossiles, les pierres fossilisées, qui sont des plantes fossilisées, qui donnent des très beaux paysages. Bon, ça veut dire une chose, si vous voulez, c'est que faire de la topologie, dessiner des objets comme ça, lire, voilà, la question elle est là. Est-ce que lire, c'est une dévotion ? Est-ce qu'on lit ça comme on fait ses dévotions devant un mandala, n'est-ce pas, indien ? Vous voyez ? Voilà, c'est ça la question. Moi, je prétends qu'il y a quelque chose qui s'appelle lire et que je pense que dans toutes les civilisations, on a su lire. C'est donc des interprétations modernes et religieuses contemporaines qui sont... c'est le problème, hein, c'est le problème des religions, c'est... C'est des allumés géniaux qui ont balancé des trucs, ils avaient des hallucinations ou des idées un peu qui leur venaient dans le ciboulot. Mais ensuite, vous avez les prêtres qui vont venir. Alors, c'est peut-être pour ça que c'est pas mal que Lacan il ait fait en sorte que, après lui, après Freud et lui, il n'y a plus personne. Comme ça, au moins, pas de prêtres. On ne risque pas de transformer la psychanalyse en religion. Il n'y en aura plus de psychanalyse. Bon. Ça ne sera pas l'affaire des prêtres, au moins. Parce que vous voyez, actuellement, ils sont quand même très curés, hein. C'est quand même de l'incantation. Ça ressemble beaucoup à la prière, mais pas beaucoup aux commentaires. Bon. Alors moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? J'en sais rien du tout. Comment il m'a manipulé, moi, le cher vieux Lacan? Quel sort il me réserve? Il m'a donné des crowbars. Quand je veux les montrer à tout le monde, on m'insulte. J'ai quand même réussi à les faire voir par 3000 personnes, si chacun a son exemplaire. Pour 15 euros, c'est plus sympa. Non bon. Je ne pense pas qu'il ait... Peut-être que s'il m'a confié ça, c'était parce qu'il pensait que j'allais m'en occuper. Donc j'essaye bêtement de m'en occuper. J'essaye pas de réaliser le désir de Lacan, mais je me dis, je dois faire partie de la stratégie. Puisqu'il y a les deux clowns, là, Laurel et Hardy, qui font partie de la stratégie, ça devient de plus en plus clair. Il y a une stratégie. Bon. Alors... Peut-être ce serait effectivement que malgré que les séminaires soient édités, puisque Lali n'a jamais édité La topologie et le temps. Hein, ça, c'est le dernier, ils ne veulent pas. Hein, j'ai la modestie de penser que ce n'est pas seulement à cause de mon intervention dans ce séminaire. Que ça pourrait peut-être être parce que c'est peut-être Alain Didier Veil ou Natio qui ont dit des choses tellement extraordinaires que Mellement ne veut pas les publier. Bon. Mais La topologie et le temps n'est pas publié par Lali, c'est curieux. Hein? Pourquoi? Alors que c'est aussi cohérent que l'année précédente, le moment pour conclure. Hein? Ça, je vous ai dit, hein? Vous pouvez, si vous voulez savoir qu'est-ce que faisait Lacan dans ces quelques 3-4 dernières années, lisez les deux articles que j'ai donnés là. Il y en a un qui s'appelle La deuxième et l'autre qui était dans une intervention à un colloque sur l'étourdi, organisé par Lali. Ils m'ont pas demandé mon texte, ils n'ont pas publié les minutes du colloque. Hein. Bon. Finalement, il a juste dit pourquoi il trouvait bien le livre de Firenze sur l'étourdi. Il dit parce que quand Lacan m'a donné l'étourdi à publier dans CI7, j'ai rendu le texte à Lacan lui disant on ne peut pas publier ça. Et Lacan il ajoute, il était très mécontent, il était très fâché. Je sais pas, mais c'est de l'infantilisme. J'imagine que si Lacan écrit l'étourdi, c'est qu'il voulait qu'il soit publié, s'il l'a donné à Sidicet. Et l'autre, je me demande comment il lit Lacan pour ne pas prendre l'étourdi plus au sérieux. C'est un texte. Alors, Major, il me dit, Lacan, l'étourdi, il l'a écrit sous Tranxène. Bon, c'est des façons de donner du sens, tout ça. C'est d'interpréter, non? Et moi, je pense que l'étourdi, c'est le testament doctrinal de Lacan, et qu'il n'y a pas de dessin, et que tout ça est très bien. Ça n'empêche pas qu'ensuite, avec Souris, on a fait des dessins et que Lacan a mis des nœuds. Parce que c'est pas les nœuds encore. L'étourdi, c'est à la fin de la période des surfaces. C'est le passage des surfaces et de la logique, des formules à sexuation. Donc, ces nœuds justifient qu'on fasse des dessins. Et alors, moi, ma lecture de ces nœuds, voilà un élément de la théorie de la lecture que je vous propose. Pourquoi chercher? S'agit-il d'interpréter les nœuds propres par des chaînes borroméennes et Whitehead? Est-ce qu'il s'agit d'interpréter? Non. Il s'agit de construire. Il s'agit de construire la partie abolie du nœud. Je dis que ce nœud de Trèves, c'est le même que le borroméen. Ce nœud de Lacan, c'est le même que ce nœud de borroméen-là. C'est le même, mais il y a une partie ici qui est détruite. Et cette destruction d'une partie du nœud, c'est ça la forclusion. La forclusion, c'est ça, détruire une partie du nœud. Et ça rend la lecture presque impossible. C'est pour ça que le psychotique, c'est quelqu'un qui rejette la lecture, la lisibilité. Il veut que tout soit écrit parce qu'il ne peut plus lire, parce qu'il y a une partie de ce qui le constitue même, qui est aboli dans la forclusion, qui est rejeté, et qui rend les choses illisibles pour lui. Hein. C'est ce que Freud appelle le délire, c'est une tentative de guérison, mais le sujet vient buter sur l'ombre de l'objet au lieu de l'objet. L'ombre de l'objet, c'est un objet dans lequel une partie a été détruite. Et on peut la reconstruire, mais il faut une pratique. Et cette pratique, il faut commencer par le début. Parce que plus on avancera, plus on va trouver encore de nouveaux objets comme ceux-là qui sont surprenants. Mais on va pouvoir apprendre à déjouer cette surprise. Voyez-vous? C'est ça le traitement possible des psychoses. Le traitement possible des psychoses, c'est que on ne peut pas lire si on n'a pas reconstruit l'objet dans sa structure différentielle. C'est-à-dire que, vous voyez, je vous donne un exemple très simple pour vous faire comprendre l'enjeu de ça, à propos de la lisibilité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le 5 trèfles, propre, nœud propre, tous les croisements sont des croisements d'un fil avec lui-même. Vous ne voyez pas du tout l'intérêt de parler d'une différence qui aurait trois nœuds, trois mouvements nœuds dans ce nœud. Il y a trois nœuds, mais deux de ces nœuds sont des nœuds impropres et un est un nœud hybride. C'est ce que nous révèle le vous voyez, le 5, il est fait avec celui-là. Celui-là, il a trois nœuds, il y en a deux qui sont impropres et un qui est hybride. Si vous mettez en continuité, si vous détruisez la structure nodale, surtout dans son principe, parce que là où Lacan met l'objet A, hein, vous ne pouvez plus lire parce que tout se mélange, ne se distingue plus. Voilà. Quel est l'intérêt des chaînes par rapport aux nœuds? C'est que les chaînes, elles sont plus lisibles. Pourquoi elles sont plus lisibles, les chaînes, que les nœuds? Parce que si vous avez des chaînes, vous voyez bien que vous avez une différence, comme les chaînes enlacées, quand un rond passe dans le trou d'un autre rond, et puis les nœuds borroméens où aucun rond ne passe dans le trou d'un autre rond, où il n'y a pas d'enlacement. Et puis même, vous pouvez faire l'évidence entre, vous voyez, maintenant je vous parle des borroméens et des Whitehead. Les Whitehead, c'est pas borroméen, mais c'est quand même nodal. C'est un nodal qui est entre l'impropre et le propre, entre l'enlacement et le borroméen. Ça contredit le borroméen parce que c'est du nœud à deux. Et le nœud, ça commence vraiment qu'à 3. Le borroméen commence à 3. À 2, il n'y a pas de nœud au sens du nœud borroméen, au sens du nœud impropre. Bon. Donc, je peux vous donner des exemples, vous voyez, mais vous voyez bien que quand vous avez un nœud propre, comme ça, comme le trèfle, le plus petit, ou un autre, vous n'avez pas, avec un seul fil, vous n'avez pas toutes ces distinctions qui vont être des distinctions faites avec deux fils. Ça, c'est l'enlacement. Ça, c'est le Whitehead. Vous voyez? Ça, c'est le borroméen. Trois fils. Bon. Plus vous avez de fils, plus ça va se distinguer. Et je vous ai donné un exemple. J'ai pris, pour vous montrer le peignage, j'ai pris une chaîne de 6 ronds. Et je vous ai montré que plus il y a de ronds, plus ça se peigne. mieux ça se paye. Si vous avez que d'une propre, vous êtes emmerdé parce que justement tout se ressemble, tout est pareil, vous n'arrivez pas à séparer les éléments, vous ne pouvez pas trier là-dedans. L'analyse est quasiment impossible. Bon, donc, vous voyez, le traitement de la psychose, ce serait introduire une lisibilité en augmentant les caractéristiques de différence. Au lieu d'avoir du nœud propre, d'avoir des chaînes impropres, vous avez plus de différences, donc vous avez plus de catégories, de types d'objets différents, donc vous pouvez plus en parler, vous pouvez rentrer dans quelque chose qui est plus souple. Alors que si tout est pareil, c'est l'ombre d'un objet, c'est pas un objet, vous pouvez pas en parler, vous pouvez pas en faire grand chose. Vous voyez, c'est ça la psychose. Bon. La psychose, c'est ce qui est en train de se passer, vous voyez, on met du managering partout, de la com partout, c'est une manière de faire disparaître. Regardez, l'université est dans un état de menace extrême, la recherche scientifique, il n'y en a plus, on ne fait plus aucune recherche fondamentale, il n'y a que les théologiens qui pourront peut-être prendre le flambeau en faisant de la nouvelle religion, je ne sais pas quoi, mais en science, on n'a plus le droit, en science, on ne peut plus se situer dans le discours que Lacan appelle, disons, à partir de Newton, il dit, il s'agit de la charte de la structure. La charte de la structure, c'est cette idée de ce que Newton appelle l'hypothèse non-fingo. Je n'ai pas besoin de feindre des hypothèses, mais j'ai besoin d'admettre qu'il y a de la différence. Vous voyez, comment est-ce que Newton a trouvé la gravitation, la formule de la gravitation? Je vous dis, c'est un duplicate de l'émission de la chaleur autour d'une bougie ou d'un feu de bois. Bon, on a cette expérience, si on est même avec un poêle, on peut avoir ça, ou un radiateur. Plus on s'éloigne, plus la chaleur paraît faible. Pourquoi? Parce que c'est la même chaleur qui se répartit sur une sphère. Et donc, comme la surface de la sphère, elle dépend du carré du rayon, la chaleur, elle va être inverse au carré du rayon. C'est pour ça que vous trouvez dans la gravitation, c'est génial. Newton, il n'a pas besoin de savoir où est le centre. Chaque objet est le centre d'un champ de gravitation. Et c'est pour ça qu'on ne trouvera jamais ce champ de gravitation. Parce que c'est le champ des champs. C'est le champ dont le centre est partout et la périphérie nulle part. C'est Pascal qui disait ça. Hein. Et oui. Donc, vous voyez, c'est quelque chose. C'est un champ qui est absolument. C'est le méta-champ. C'est comme le métalangage. Au moment où vous allez l'écrire, si vous ne passez pas par l'écriture freudienne, ça se trivialise, ça devient con ou ça devient irréfutable. C'est-à-dire c'est hyper dogmatique. Donc, c'est-à-dire que c'est religieux pour Popper, hein, irréfutable. Parce que la science, ça réfute. Bon. Donc la psychanalyse, elle est fausse et irréfutable. C'est ça qui emmerde tout le monde. Parce que si elle était que fausse, ça serait comme l'idéologie. L'idéologie, c'est faux et réfutable. Hein, donc, vous voyez, ça se casse la gueule. Le pape, il l'a montré, il a fait tomber le mur. C'est donc parfaitement réfutable. On a cru que l'URSS allait être éternelle. Non, c'est faux, mais c'est pas irréfutable comme le freudisme. Le freudisme, c'est faux et c'est irréfutable. Mais on peut très bien voir quelque chose qui se produirait avant, c'est que cette espèce, plutôt que d'accepter cette histoire de sexe là, qui est inclassable, elle préfère plutôt que de passer par l'écriture, elle préfère se détruire elle-même. Vous savez, Lacan faisait cette remarque à Rome quand il a fait son discours de Rome. Il dit là, on voit les comités d'éthique qui se réunissent, ils disent qu'il faut pas faire certaines expériences de biologie là parce que il y a des risques. Vous avez une saloperie qui passe sous la porte du laboratoire et qui va polluer tout le monde. Il dit ce serait quand même intéressant que l'humanité arrive à polluer le monde de telle manière que l'humanité, l'espèce humaine, entièrement nettoyée. Lacan, il dit que ce serait intéressant parce que ce serait la première espèce qui arrive à se détruire elle-même. Vous direz que ce serait amusant pour qui? Qui va rester pour rire? Ça, c'est ça. Moi, je trouve que c'est ça l'ironie de Lacan. Enfin, il faut quand même apprécier. Je trouve que c'est assez amusant comme idée. Ce serait un progrès uniquement, mais pour qui? C'est ça le progrès. Hein, moi, je me méfie beaucoup du progrès. Moi, je considère que les seuls progrès qui existent, c'est dans des choses comme Cantor, Gödel, Euclide. Ça commence très tôt. Hein, Thalès, Mais aussi, ça continue. On trouve de la mathématique dans le monde entier. Il y a des... Et justement, ce qui est génial, c'est que ça s'écrit différemment, mais ça se lit de la même manière. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est les deux, la deuxième page que je vous ai donnée, hein? La deuxième page que je vous ai donnée, c'est les chaînes qui marchent avec mes nœuds qui sont là-bas, de l'autre côté. Donc, je mets... Voilà. J'ai trouvé, je ne peux pas vous dire comment, parce que, est-ce que je le sais moi-même ?